On a des valeurs qui sont héritées de l'histoire, qui nous font différents de toutes les nations du monde.
La République et la chasse.
Oh, des perdrix royales ! Le grand Saint-Hubert était avec vous ?
Le grand Saint-Hubert est mon calibre 12.
J'ai eu là un vieux mâle et une poule de 2 ans. Je veux vous certifier que cette perdrix n'est pas la Carcanis rufa.
Non.
Mais la Carcanis saxatilis.
Voilà. Et en français républicain ?
Excusez-moi, c'est-à-dire la perdrix des roches, qu'on appelle la perdrix grecque.
Oh, je vois que votre ministère s'exerce jusque sur les volatiles.
Les anges aussi ont des ailes, monsieur.
Le français républicain évoqué dans La gloire de mon père d'après Pagnol. La loi qui établit le permis de chasse et la fixation des dates d'ouverture date en fait de 1844. Nous sommes sous la monarchie. Mais pas n'importe laquelle, la monarchie de Juillet qui se considère comme l'héritière de 1789. Nous avons d'ailleurs encore coutume de dire que sans la Révolution, la France ne compterait pas autant de chasseurs. Et il est vrai qu'ensuite, le climat idéologique de la Troisième République leur fut favorable. Le droit de propriété y tenait une place première, or la liberté de chasser en était un des attributs. Aujourd'hui, les sensibilités ont bien changé. Les citadins pratiquent la nature comme une récréation. La chasse se déroule dans des conditions d'inconfort qui leur seraient insupportables s'ils les connaissaient. Surtout, le rapport aux animaux s'est transformé. Nous concevons mal que la violence à l'œuvre dans la nature puisse venir d'eux et ne tolérons plus qu'elle puisse venir de nous. La légitimité de la chasse, qui ne se discutait pas en temps républicain, peut-elle être reconstruite en temps écologique ? François Hollande, en déplacement il y a quelques jours en Haute-Saône, déclarait que les chasseurs et les pêcheurs étaient nécessaires pour la gestion du patrimoine naturel et il se hasardait à affirmer qu'il travaillait dans ce sens en commun avec les associations environnementales. Dont acte. Il me semble que commencer une émission sur les chasseurs, qui sont parfois ostracisés, en évoquant les vœux d'un président qui est souvent mal entendu, c'est une double garantie pour que les auditeurs ne ferment pas le poste.
La marche de l'histoire, France Inter, Jean Lebrun.
Surtout que l'invité est Paul-Henri Ansenkata. Bonjour.
Bonjour Jean-Lebrun.
Je ne dirais pas que vous avez présidé une fédération de chasse importante dans l'Aisne. Non, je dirais que vous dirigez Plaisir de la chasse, une revue mensuelle. Vous êtes l'auteur d'un Larousse de la chasse d'aujourd'hui. Il faudrait d'ailleurs peut-être dire que la chasse, ça se subdivise. Chasse au lièvre, au faisan, à la bartavelle, à la perdrix. Il faudrait parler de chasse à plutôt que de chasse.
Non, je pense que dans un premier temps, on est chasseur. On est chasseur parce qu'on a un rapport à la nature bien singulier. Et puis effectivement, à l'intérieur de ce phénotype, si je puis dire, il y a des chasseurs plus ou moins spécialisés.
Alors, employant des grands mots, vous appartenez à l'élite cynégétique, vous. Enfin, celle qui existe particulièrement dans votre région. La chasse ne se pratique pas de la même manière dans le nord-est et dans le midi de Pagnol.
Elle procède de la même mentalité. C'est pas les mêmes cultures au sens où effectivement dans une région plus forestière et dans une région de Rastan, on n'aborde pas la faune sauvage, le gibier sauvage de la même façon. On utilise des chiens différents. Mais moi, je ne suis pas de ceux qui font une grande différence entre les modes de chasse, les chasseurs selon qu'ils sont montagnards ou de la plaine ou des plaines du Nord, parce que fondamentalement, la chasse, c'est une façon d'aimer la nature, de ne la concevoir que dans un rapport de prédateur, hein, d'ailleurs. Mais ça, c'est ce qui fait une unité de sensibilité, voilà, on va dire ça comme ça.
Alors êtes-vous de ceux qui font une différence fondamentale entre l'avant 1789 et l'après 1789, la nuit du 4 août, bien sûr.
Nous renonçons aux pensions du roi.
Je sollicite l'abandon pur et simple des privilèges ecclésiastiques.
L'abolition du droit exclusif de Colombier. Comme le poète Catulle, je regrette de n'offrir un sacrifice qu'un moineau.
Je propose la suppression du droit exclusif de chasse.
Bravo. Bravo.
Le marquis.
Monsieur le marquis, ce sont vos gens.
Oui, je ne suis pas sourd, que diable.
Eh bien, mes amis, la
nouvelle est arrivée, je vois.
Monsieur le Marquis, nous sommes égaux aujourd'hui.
Et cela ne vous autorise pas à venir ici.
Il n'y aura plus d'impôts, monsieur le Marquis. Il n'y a plus de privilèges.
Nous ne paierons plus pour faire notre pain. Pour ramasser du bois.
Et justice seigneuriale, c'est terminé, monsieur le Marquis. On va enfin pouvoir abattre tout le gibier qui détruit nos récoltes.
Et les pigeons aussi.
Donc Versailles, la surenchère des différents représentants des ordres, et puis l'application locale. C'est un extrait d'une émission de Jacques Martin. C'est-à-dire le sérieux de nos informations. Il connaissait très bien l'histoire, Jacques Martin, sauf que vous n'avez pas la même interprétation que lui.
Non, parce que en fait, l'abolition du privilège de chasse de la nuit du 4 août, c'est l'abolition des privilèges de chasse dans les capitaineries royales et dans les réserves. Là, effectivement, il n'y a plus de privilèges régaliens. Mais cette idée que la chasse populaire est née de la Révolution française est fausse parce que, en fait, avant 89, il y a bien sûr un certain nombre de un certain type de gibier qui sont chassés, le cerf, le sanglier, qui sont chassés par le pouvoir, on va dire, ou la cour, ou l'aristocratie, mais par ailleurs, les migrateurs, par exemple, ou les lapins, c'est même pas légalisé. C'est-à-dire que selon les régions, c'est la France, c'est l'héritage de la France féodale, cette France hérissée de liberté. Il y a des endroits où on chasse de façon roturière. D'ailleurs, ça s'appelle la chasse cuisinière. Et à cette époque-là, avant 89, disons grosso modo, il n'y a pas de différence entre le piégeage et la chasse cuisinière. C'est quelque chose que l'on appelle ignoble, au sens où ça n'est pas noble. Donc l'abolition de 1780, de la nuit du 4 août, c'est l'abolition du droit du pouvoir sur un certain nombre d'endroits dont il est le propriétaire. Mais c'est surtout la victoire des propriétaires, puisque le droit de chasse devient maintenant, à partir de cette nuit, associé à la propriété privée, notion qui n'existe pas sous la féodalité.
La victoire des propriétaires. Alors je sais que vous aimez présenter l'histoire de France, Paul-Henri Ancel-Cata, comme un continuum. La Troisième République va se fonder, parce qu'elle a des aspects conservateurs, sur le droit de propriété, la chasse étant un attribut de ce droit.
Tout à fait. Et c'est très symbolique, cette affaire-là, parce que l'ouverture de la chasse sans organisation, on va dire, jusqu'en 1844, cause un certain nombre de ravages. D'ailleurs, on l'entend, là, on vient de l'entendre, à savoir qu'on va pouvoir tout tuer. Et c'est en fait, c'est l'agriculteur qui dit ça. On va pouvoir tout tuer pour défendre nos cultures. Bon. Donc, la faune sauvage, c'est quelque chose que l'agriculteur craint avant tout. C'est le vrai concurrent. Donc aujourd'hui, c'est le cas des insectes d'ailleurs. Enfin, toute la phytothérapie, enfin tous les produits phytosanitaires, pardon, sont liés aussi à ça. Le refus du sauvage et ce qu'on ne maîtrise pas. Et donc, c'est une logique agricole depuis toujours. Et sous la Troisième République, les propriétaires fonciers, dont on va dire que les convictions ne sont pas spécialement à l'unisson des valeurs de la Troisième République, mais parviennent à convaincre le pouvoir en place qu'il faut organiser cette chasse et qu'il faut l'organiser autour, effectivement, de la défense de la propriété, parce que c'est un attribut. Et c'est ainsi qu'on voit la Troisième République et la grande propriété foncière s'accorder sur la chasse.
1901, loi d'association, et les chasseurs vont en profiter pour se regrouper.
Tout à fait. Les chasseurs, enfin, les propriétaires fonciers convainquent la Troisième République, entre autres le petit père Combes, c'est assez amusant.
Président du conseil anticlérical.
Anticlérical, via une organisation qui a une image très, pour le moins réactionnaire, qui s'appelle le Saint-Hubert Club de France, qui convainc le petit père Combes qu'il faut profiter de la loi d'association pour réunir les chasseurs dans un système qu'ils appellent à l'époque la communalisation. C'est-à-dire que la droite conservatrice, et plutôt versaillaise, va-t-on dire, est porteur du message de la communalisation de la chasse, sur lequel, bien évidemment, la gauche républicaine et laïque se jettent.
Alors, la Saint-Hubert, oui, c'est pas une histoire fondamentalement républicaine, c'est le 3 novembre que ça se fête. Oui. Les grands propriétaires l'aiment beaucoup. Alors, pendant la Troisième République, comment se passent les choses entre les grandes chasses et les petites chasses, pour faire simple?
Alors, il y a les grandes chasses privées, et puis il y a la chasse banale. Et toute l'obsession des grandes chasses privées, c'est de contrôler plus ou moins la chasse banale. C'est-à-dire les chasseurs qui vont chasser là où ils peuvent aller chasser, les biens communaux, leurs propres propriétés, tout ça n'est pas très organisé. Et la volonté de ces propriétaires fonciers est d'organiser tout ce système-là, qui aboutira d'ailleurs à partir des années 60 à ce qui concerne plus de 20, près de 30 départements en France, qui s'appellent les associations de chasse agréées, qui aboutissent à l'expropriation des propriétaires au nom d'un intérêt supérieur général qui est celui de la défense de la faune sauvage.
Mais le garde-chasse qui défend les grandes chasses, c'est pas du tout un héros pour les Républicains. Les Républicains, ils aiment beaucoup Rabolio, le braconneur.
C'est plutôt les milieux anarches qu'aiment bien Rabolio. La République, c'est d'abord l'ordre. Et le braconnier n'a pas... Bon, la figure absolue du braconnier littéraire, c'est bien sûr le Rabolio de Maurice Genevoix. C'est pas un livre qui est, quand il sort dans les milieux de la chasse, qui est pas très apprécié, parce qu'effectivement, il glorifie un braconnier. Mais quand on lit bien Rabolio, c'est pas un livre très républicain, Rabolio. C'est un livre, c'est plutôt un art. Mais Genevoix, d'ailleurs, Genevoix, c'est pas un, même dans son analyse de la guerre, enfin, son regard sur la guerre de 14, il a pas un regard 100% patriote, voilà.
Non, c'est un individualiste.
Oui, très individualiste.
Bon, j'essaye encore une dernière cartouche, si vous me le permettez, Paul-Henri Anselme-Catin. Le père de famille, disait de grands écrivains, c'est le véritable héros de la Troisième République, le père de famille qui enseigne en famille à son fils comment se tenir à la chasse. Encore un extrait de La gloire de mon père, selon Yves Robert, adapté de Pagnol.
Mon père préparait l'ouverture de la chasse avec une application si minutieuse et si humble que pour la première fois de ma vie, je doutais de sa toute-puissance. Il m'envoyait me cacher dans un buisson. J'avais ordre de fermer les yeux. Là, j'attendais, les oreilles grandes ouvertes et attentif au moindre craquement.
Tu m'as entendu venir ?
Pour ne pas le chagriner, je répondais...
Non, papa.
Et mes inquiétudes ne faisaient que grandir. Car mon père, enfant des villes et prisonnier des écoles, n'avait jamais tué ni poil ni plume.
Ça ne me plaît pas trop, moi, que papa aille à la chasse.
Ah ? Pourquoi ça ?
Tu n'as pas vu comme l'oncle Jules est fier ? C'est toujours lui qui commande et qui parle tout le temps.
C'est pour apprendre à papa. Il fait ça par amitié.
Non, je vois bien qu'il est rudement content d'être plus fort. Papa le gagne toujours au bout. Mais là, je suis sûre qu'il va perdre.
Mais, gros bêta, la chasse, c'est pas un concours. C'est simplement une promenade avec un fusil.
La transmission par le père de famille, puis le rôle de la mère un peu en retrait. Vous me direz que la Troisième République a trouvé mille façons de refuser le droit de vote aux femmes qui n'accédaient pas beaucoup à la chasse.
Non, c'est pas, quoi qu'on en dise aujourd'hui, parce qu'il faut bien faire dans l'air du temps, le monde de la chasse n'est pas fondamentalement un monde féminin, il porte en lui, vous évoquiez tout à l'heure le mot de violence, en tout cas l'idée du prédateur, la posture du prédateur n'est pas une posture fondamentalement féminine. En ce qui concerne par contre effectivement la relation au père, ça c'est très typique, c'est-à-dire que la chasse, le chasseur se satisfait de l'idée qu'il est dans l'ordre de la transmission. C'est fondamental ça, dans la psychologie du chasseur, le chasseur il n'est pas né d'hier, il est né de toujours. Et dans sa tête, les chasseurs, toujours, ont l'impression d'appartenir à la très longue histoire. Ce qui n'est pas seulement une impression à mon avis, mais en tout cas dans la tête du chasseur, et peut-être plus encore aujourd'hui face aux oppositions qui se manifestent à son égard, il revendique la très longue histoire. Et quand on revendique la très longue histoire, on revendique la transmission, donc la figure paternelle, qui est toujours un héros, façon de l'être soi-même, est très importante.
Enfin, dans La gloire de mon père, le héros, c'est aussi l'oncle.
Oui.
Hein, la transmission est multiple.
Elle est familiale.
Allez, je vous propose d'entendre Michel Delpech. Là, c'est la chasse des manants, vous savez.
Ouais, je suis pas sûr que cette chanson soit... J'adore
passé,
cette chanson. Quand j'ai créé une radio libre, j'en avais fait ma musique.
Enfin, c'était quoi votre radio libre ?
Ça s'appelait Radio Alpha. C'était juste au moment de l'essor des radios libres, en 1981.
Ah oui, vous êtes un peu anard, vous, au fond.
Je suis un art, oui, mais un art pas conformiste du tout.
Et vous êtes prêts? On peut partir à la chasse?
Ah ben oui.
Alors, allez, tenez bien vos chiens, qui ne se passe pas.
Il était 5 heures du matin, on avançait dans les marais, couverts de brume. J'avais mon fusil dans les mains, un passereau prenait au loin de l'altitude. Les chiens pressés marchaient devant dans les roseaux. Par-dessus l'étang, soudain j'ai vu passer les oies sauvages. Elles s'en allaient vers le midi, la Méditerranée. Un vol de perdreaux par-dessus les champs montait dans les nuages. La forêt chantait, le soleil brillait au bout des marécages.
La marche de l'histoire, Jean Lebrun sur France Inter.
Est-ce que j'ai tué ?
Ah, il retourne même pas. C'est vrai ? Ils ont dit salut à la vie.
Est-ce que j'ai tué ?
Oh merde !
Raymond ! Est-ce que j'ai tué ?
Oh, ils font chier, merde. Mais oui, c'est toi, les chiens ne disent plus rien.
Est-ce que c'est toi ?
Oui. Bon, bah allez, allez. Appelez vos chiens, alors, allez. Ah bah, là, ça va, ils ont tué, allez.
Après le paisible Delpech qui servait de générique à Feu Radio Alpha, qu'animait notre invité, Paul-Henri Ancène-Cata, auteur par ailleurs du Larousse de La Chasse. Là, on est dans la petite vénerie, dans un monde plus extrême, peut-être, de chasse de cueillette énergique, n'est-ce pas ? Avec, vous connaissez ce personnage qu'on entendait, qui a été filmé il y a longtemps par François Reichenbach ?
Lassus, là, le vieux...
Bernard de Lassus, ouais. Alors, on est aux confins de l'Aube et de la Haute-Marne, du côté de Bayel, non loin de Clairvaux.
Un endroit que vous connaissez bien.
Voilà, et la purulence de l'extrême, c'est comme ça que vous définiriez cette attitude, non ?
Non, pas du tout.
Ah, pas du tout.
Ah, non,
ah bon,
non, non,
qu'est-ce
non.
Qu'il vous faut ?
Non, pas du tout, parce que... Oui, il emploie le mot tuer, il hurle, parce que faut savoir... Bon, faut bien... Voilà, parce que la chasse, il faut savoir ce qui s'est passé pour savoir si on la continue ou pas. Et très franchement, aujourd'hui, on dit, voilà, j'ai prélevé, on a tendance à vouloir... Non, c'est pas vrai. Le chasseur, fondamentalement, il tue des animaux.
Mais je croyais que vous faisiez des différences subtiles entre chasseur et tireur.
Ah oui. Mais c'est pas parce que le tireur peut tuer que le chasseur peut tuer qu'il n'y a pas de différence entre les deux. C'est pas ça qui fait... Ce qui fait la différence entre le chasseur et le tireur, c'est que le chasseur, il inscrit son acte, sa volonté de tuer, de prendre, au terme de toute un long cheminement. C'est-à-dire que d'abord, il traque, il cherche, il ne traque que des animaux sauvages. Parce que si on tire des animaux qui ne sont plus sauvages, on n'est plus chasseur. Ça, c'est une notion tout à fait essentielle. Alors que le tireur, lui, la seule chose qui l'intéresse, c'est la réussite de son tir. D'ailleurs, la maman du héros de la gloire de mon père, enfin du petit garçon de...
Du film d'Yves Robert. Voilà,
ouais. Lui dit, mais la chasse, c'est pas un concours ou une phrase de genre. Parce que c'est pas ça, effectivement. Alors que pour le tireur, bien évidemment, c'est la gloire du tireur. Et la gloire du tireur, c'est le contraire de la gloire de mon père.
Mais le chasseur, de toute façon, il a des animaux comme médiateur. On entendait Bernard de Lassus appeler ses chiens.
C'est fondamental, hein. Le chien, c'est le médiateur.
Longue méditation, nous allons revenir à l'histoire. Alors Bernard de Lassus, c'est un peu le témoin de l'histoire d'avant-guerre, où la République faisait un compromis idéologique et économique avec les chasseurs. Il va se passer beaucoup de transformations dans les années 1940. Dès Vichy, texte de 1941, et ensuite, dès la Libération, texte du ministre de l'Agriculture, Tanguy Prigent, en 1946. Qu'est-ce que c'est, cette transformation ?
C'est fondamentalement la disparition du paysage rural français, du poids des propriétaires. Les propriétaires... qui veulent effectivement le contrôle de la chasse, sont néanmoins habités par l'idée de la sauvegarde de leur patrimoine. Et comme ils sont fondamentalement chasseurs, ils ne sont pas dans une logique financière, ils sont peut-être dans une logique économique, mais pas financière. À partir de 45, il y a le statut du fermage, ça change tout.
Et la mise en place des fédérations de chasseurs qui existaient dès les années 1920, mais à qui va être confiée par l'État, l'administration, la plus serrée possible de la chasse. Tenez, Gaumont a produit, au moment de l'ouverture de la chasse, dans ces années-là, on est précisément en 1952, ce petit document. Vous noterez déjà que le nombre des chasseurs est beaucoup plus important qu'aujourd'hui.
Vous voici, chasseur, l'un de ces 2 millions de Français à qui l'on vient de délivrer un permis. Mais attention, lisez bien votre règlement. Vous avez le droit, par exemple, de chasser soit à tir, soit à court, à corps et à cri. Mais n'oubliez pas que sont prohibées les armes à feu non susceptibles d'être épaulées sans appui, qu'il est interdit d'employer des drogues ou appâts de nature à enivrer le gibier. N'oubliez pas que la chasse aux grouses, aux spatules, aux ibis, aux sternes et aux fous de bassin est prohibée toute l'année. Et notez que la chasse au tétras tétrix se ferme le 21 novembre, celle au tétras urogallus le 28 septembre, en même temps que la chasse au lagopède. Voilà. Mais qu'est-ce que le lagopède ?
Je vous propose qu'on laisse en suspens un instant qu'est-ce que le lagopède, cette question fondamentale. Les permis, à partir de ces textes du milieu et des années 40, sont délivrés par les fédérations qui sont contrôlées par qui ?
Les fédérations sont sous l'ordre des préfets. Et donc la délivrance du permis, la validation, c'est néanmoins une validation qui déclenche un certain nombre de paiements, dont des paiements qui vont à l'État. Donc en fait, là, les fédérations n'ont pas de latitude dans la matière. Elles peuvent...
C'est important, président de fédération, quand vous étiez président de la fédération de l'Aisne, vous avez connu tous les préfets.
Oui, et d'ailleurs, on disait jusqu'à une époque assez récente que parmi les 10 personnes que rencontrait un préfet lorsqu'il arrivait dans un département, figurait au minimum le président de la fédération dans les 10 premières personnes à voir.
Parce que vous étiez une fédération de citoyens armés.
Ça, c'est fondamental. Mmh. Le rapport de la République à la chasse... C'est exactement ce que vous dites. La République n'a jamais perdu de vue que les chasseurs sont des citoyens armés. Donc les citoyens armés, ça se contrôle.
Alors qu'est-ce que c'est qu'un lagopède ?
Lagopède, c'est de la famille des tétras et c'est un gibier de montagne. Alors là, on évoquait d'ailleurs dans le passage que vous avez cité, la grausse en France. Enfin, vous me direz, dans la chanson de Delpech de tout à l'heure, on voit les oies qui descendent au mois de septembre et on voit les perdreaux, c'est totalement anachronique.
Oui, bon d'accord, mais tout le monde n'a pas lu la rousse de la chasse et n'a pas la pratique de la nature que vous avez. Puisque vous parlez de la montagne, vous dites qu'il faut toujours s'élever, c'est profitable d'aller en montagne. Alors, dans la montagne de l'agriculture productiviste des années 50, 60, 70, il y a de plus en plus de forêts, il y a de moins en moins d'herbages, où les herbages sont appauvris et les lagopèdes ont bien du mal.
Et, oui, parce que le milieu se ferme. Le milieu se ferme, puisque là c'est un peu... La montagne, la disparition notamment du lagopède, c'est lié à la fermeture du milieu, qui elle profite par contre aux grands animaux. Le cerf, par exemple, les cerfs n'ont jamais été aussi nombreux dans les Alpes aujourd'hui parce que le milieu se ferme. L'agriculture montagnarde a permis, entretenait, ouvrait le paysage, et les paysages ouverts, c'est très favorable à la biodiversité.
Alors, quand l'agriculture productiviste l'emporte, allez, encore un petit couplet anti-paysan, oh, pardon, anti-exploitant, le mot est
oui,
important.
Le paysan devient un exploitant à partir de...
La chasse perd.
Oui. La chasse et le monde des propriétaires sont sur la même longueur d'onde, donc jusque dans les années, jusqu'à la fin des années 30. À partir du droit du fermage, où l'exploitant devient maître à bord par rapport au propriétaire, c'est la naissance de la FNSEA et c'est la tentative de prise en main du monde de la chasse. Parce que le monde de la chasse, c'est pas un monde qui va de pair avec, même si à l'époque beaucoup d'agriculteurs sont encore chasseurs, mais ce qui est en gestation dans l'agriculture, c'est-à-dire l'agriculture productiviste, bien évidemment, c'est le contraire des intérêts des chasseurs.
Donc au fond, il peut y avoir, dans l'époque qui s'est ouverte depuis que la question écologique se pose, une alliance objective entre les écologistes antiproductivistes et les chasseurs.
Absolument. Le seul écueil dans cette affaire, c'est le regard porté sur la nature, c'est-à-dire que les écologistes qui privilégient le rapport à l'animal, qui ont une vision zoolâtre, qui a rien à voir, que parfaitement légitime, mais qui n'a absolument rien à voir, respectable, mais qui n'a rien à voir avec l'écologie, c'est le problème. Aux États-Unis, une grande partie du monde écologiste, celui qui est d'ailleurs lié au courant survivaliste, etc., n'est pas du tout anti-chasse. En Europe, l'écologisme, qui est quand même un pur produit d'une conception très religieuse de la nature, d'ailleurs, il y aurait sûrement des travaux à faire sur pourquoi l'écologisme qui définise la nature provient en fait de courants très chrétiens.
Bref, il faudrait que la gauche soit plus laïque et qu'elle admettrait laïque. Mieux la chasse. Je voulais finir en entendant une dernière fois Bernard de Lassus, parce que c'est quand même un personnage, s'il n'est pas représentatif, qui est très haut en couleur, introduire ma dernière question. Elle va porter sur le spectre politique des chasseurs.
Il y a 3 chevreuils de tuer. Il y en a un de ce matin, puis 2 de ce soir. Mon Dieu, nous sommes des assassins, c'est affreux.
Tu fais de la politique étant jeune. Très jeune. Mais alors, une politique qui ne paierait pas maintenant. J'étais bien de droite. J'étais camelot du roi. Non, mon Dieu, j'ai été souvent au poste. Hein. J'ai été au moins 30 fois au poste. Parce qu'on avait les bagarres. Alors, je suis tout de même patriote, mais j'ai bien changé. Moi, je suis républicain. Mais pas république actuelle. Je suis 3e république. Je garde bon souvenir de la 3e république que nous combattions.
Aïe, 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 aïe.
Continuez à traquer, comprenez, ils vont s'en aller jusqu'au bout. Voyez, vous y remettez à la chasse à M. de Lassus. Enfin, vous avez tué cette année votre chevreuil et puis Pierre aussi. Eh bien, c'est bien, je suis content.
S'il y avait le temps, mais il est trop tard, vous expliqueriez à Bernard de Lassus qu'il y avait des relais de gauche pour les chasseurs. Mais c'est vrai quand même, hein, la chasse est étiquetée à droite aujourd'hui. Par exemple, dans la région où vous œuvrez.
Oui, tout récemment d'ailleurs, dans la perspective des régionales, il y a des accords qui sont passés. Monsieur Sarkozy a demandé à ses troupes d'accueillir les chasseurs. Les fédérations de chasse tombent dans ce piège parce que l'organisation de la chasse, il faut surtout pas qu'elle soit mariée, voire maquée avec un courant politique, puisque dans toutes les logiques d'alternance, d'une saine démocratie, un jour les majorités changent et là on risque d'en vouloir beaucoup à l'organisation même de la chasse. Si l'organisation de la chasse perd son indépendance par rapport aux partis politiques, elle joue très gros.
Vous comptez, Paul-Henri Ancène-Cata, le Larousse de la chasse dont vous êtes l'auteur, le prouve, non pas en mandat, mais allez, en siècle, voire en millénaire. Merci de nous avoir rejoints aujourd'hui. Mathieu Vidard.
Oui, Jean Lebrun, Jean Lebrun.
Les victimes. Qui sont les victimes pour vous aujourd'hui?
Les blessés, en tout cas, les cellules d'urgence psychologique et la victimisation des blessés. Voilà ce dont on va parler.
Dans un instant.